Monsieur Carvalho, bon matin.
Bon matin.
Merci de prendre un peu de temps pour nous jaser ce matin. Je sais que ça doit rouler vite présentement dans les bureaux du CIS, mais écoutez, d'abord et avant tout, la question que je veux vous poser, on sait que la situation s'envenime un peu partout à travers la province concernant la COVID-19 et son variant Omicron. On sait que le nombre d'hospitalisations est en hausse partout. Le Bas-Saint-Laurent ne fait pas exception. On avait été malgré tout épargné dans les premières vagues, mais là, ça nous frappe de plein fouet. Quel est l'état de la situation présentement?
Bien, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, comme vous venez de le nommer, on note une augmentation des hospitalisations sur le territoire pour la COVID. Pour l'instant, on concentre essentiellement les patients à Rimouski et à Rivière-du-Loup pour être en mesure de justement contenir un peu le tout. Mais on voit quand même que le nombre a augmenté. Aujourd'hui, il va y avoir une légère diminution par rapport à hier parce qu'on a été en mesure d'ouvrir certains lits de non traditionnels pour envoyer des patients avec la COVID, terminer leur épisode de soins parce qu'il aurait pu avoir congé ailleurs. Mais reste que quand on regarde la tendance au niveau de la province, on s'attend quand même à ce que ça augmente. Donc, on est en train aussi de mettre en place d'autres solutions pour venir augmenter notre capacité à hospitaliser des cas de COVID.
Justement, à court et moyen terme, la courbe de progression ne va pas diminuer, du moins en janvier, selon la majorité des experts. On va continuer d'avoir un nombre important d'hospitalisation. Quel est le plan de match? Bon, je sais qu'on prépare les autres hôpitaux outre les deux pôles régionaux là, à Rivière-du-Loup et Rimouski, mais quel est le plan de match là, très prochainement si le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter?
En fait, très concrètement, probablement que la prochaine étape, là, quand Rimouski puis Rivière-du-Loup auront été dans un premier temps plus remplis, ça va être de vraiment faire appel aux autres hôpitaux du territoire là, pour être en mesure d'hospitaliser quelques cas de COVID. Et ensuite, il y aura une coordination pour équilibrer les choses entre Rimouski, Rivière-du-Loup puis les autres hôpitaux. Ça devrait nous donner quelques lits de plus. On se souviendra que dans les premières vagues, on avait quand même à un certain moment une cible qui était plus autour de 42 lits. Là, la cible était à 28 quand on inclut les soins intensifs. Donc, nous, on va remettre en place le plan qui nous faisait projeter pouvoir monter jusqu'à 42 si jamais on avait besoin. Autrement, dans les autres actions qu'on fait, ça passe beaucoup par du délestage de ressources pour être en mesure d'aller répondre à des besoins COVID. Là, déjà, du côté de Rimouski et de Rivière-du-Loup, il y a eu du déplacement de personnel, notamment le personnel de bloc opératoire. Donc ça, c'est sûr que ça va engendrer une diminution du nombre de chirurgies dans les blocs opératoires, puis peut-être un report de certaines chirurgies non urgentes pour être en mesure de faire face en janvier là, à la vague qui est en train d'arriver.
Oui. Je me souviens, puis ça n'a pas été démenti, qu'on avait également l'option à Saint-Antonin, on avait des lits, je pense qu'à Rivière-Ouelle également. Est-ce que ça aussi, c'est dans le plan de match d'éventuellement sortir des hôpitaux pour accueillir des patients COVID?
En fait, les lits à Saint-Antonin ont déjà été rouverts. Entre Noël et le jour de l'an, on a commencé, justement pour donner plus de marge de manœuvre à nos hôpitaux, notamment les hôpitaux régionaux. Donc ça, c'est déjà en cours. Tant pour de la clientèle COVID qui serait en fin de séjour, comme je vous disais, là, puis qui devrait attendre quelques jours avant de pouvoir réintégrer son milieu de vie, que pour certains usagers qu'on dit tièdes, là, ils sont pas infectés, mais on veut pas les retourner tout de suite dans leur milieu parce que il peut avoir certains enjeux, certaines contraintes. Donc, dans les deux types de clientèle, ils sont évidemment séparés, mais ils vont pouvoir déjà aller à Saint-Antonin. On avait déjà travaillé là-dessus entre Noël et le jour de l'an. Et là, on est en train de finaliser ce volet-là. Donc, les lits supplémentaires dont je vous parlais tantôt, c'était ceux-là. En plus de la capacité de nos hôpitaux de proximité qui vont pouvoir contribuer aussi. Là. Puis, on me confirmait en début de semaine que le gros des préparatifs était fait également.
Oui.
Donc, ça, c'est les prochaines étapes. Après ça, comme je vous disais, c'est de jouer avec notre personnel disponible puis d'être en mesure de voir comment on peut ajuster certaines activités, soit en clinique externe spécialisée, soit au niveau des blocs opératoires pour être capable de prendre le personnel puis de demander que des soins soient octroyés aux usagers. Puis vous avez peut-être aussi entendu parler de toutes les mesures que le gouvernement a mises en place pour permettre parfois de réduire certains isolements de travailleurs de façon préventive pour leur permettre d'éviter des ruptures de service. C'est sûr que ça va faire partie des outils aussi là, qu'on va utiliser.
Justement, cette mesure-là qui a fait énormément jaser, de permettre peut-être à des gens dans le domaine de la santé de travailler même s'ils sont atteints de la COVID-19. Bon, il y a quand même des critères, là. Est-ce que ça, c'est déjà en place au Bas-Saint-Laurent?
Pour l'instant, des employés vraiment infectés au travail, on n'en a pas. Il y avait deux volets à cette directive-là. Il y a ceux qui étaient en isolement préventif, c'est-à-dire ils ont été en contact étroit, mais ne sont pas encore infectés puis ont un test négatif. Cette option-là, on a déjà commencé à la considérer à certains égards, notamment au niveau médical quand c'est arrivé, pour être capable de maintenir des services puis éviter des ruptures. Puis évidemment, c'est suivi de très, très près. Il se pourrait, dépendamment des besoins de main-d'œuvre, qu'éventuellement des gens qui ont eu l'infection puis qui sont soit devenus asymptomatiques avec les critères là, qui sont déterminés, puissent rentrer au travail. Puis là-dessus, il faudra, ça va vraiment être une analyse au cas par cas là, pour que ça soit sécuritaire, mais quelqu'un qui aurait la COVID, qui n'aurait pas de symptômes, par exemple, pourrait très bien venir prendre soin d'usagers infectés à la COVID parce qu'il a déjà fait l'infection.
Justement, à quel point l'enjeu de la main-d'œuvre, parce que hier, on apprenait que c'est environ 300 employés de la santé au Bas-Saint-Laurent seulement qui sont retirés pour diverses raisons. Il y en a plusieurs qui ont un diagnostic positif de la COVID-19 là-dedans. À quel point ça devient un casse-tête pour vous? Là, vous avez ouvert des endroits à l'externe, notamment à Saint-Antonin, mais tu sais, lorsqu'on ouvre de nouveaux lits, ça prend des gens pour soigner les malades. Et lorsqu'on a moins d'employés pour soigner ces malades-là, j'imagine que pour vous et pour le reste du CIS, ça devient tout un casse-tête.
Oui, effectivement, ça rend les choses pas mal complexes. Je vous dirais que l'ensemble des équipes, les professionnels, les gestionnaires, tout le monde est comme à l'œuvre pour être capable de trouver l'équilibre. Ce que l'ouverture de certains lits à l'extérieur de l'hôpital nous permet parfois, c'est de donner des soins, des services à des usagers en utilisant un peu moins de ressources. Mais comme vous l'avez nommé, il faut quand même prendre les ressources quelque part puis les réaffecter. Donc, c'est sûr que c'est là qu'il faut... Tout est des vases communicants. Donc, quand je prends un employé quelque part et que je lui demande d'aller prendre soin d'un autre usager, bien évidemment, il y a quelque chose qui ne se fait plus ou qui va se faire différemment. Donc, on est un peu là-dedans. Les enjeux de main-d'œuvre, ben, comme on s'en est déjà parlé par le passé, sont quand même importants dans la région. Puis c'est un enjeu névralgique. Puis c'est sûr que quand on a des gens qui sont retirés du travail, ben là, ça vient accroître là, toutes les pressions qu'on avait déjà là, à différents niveaux. Fait que c'est vraiment de trouver l'équilibre. C'est ça qui va faire aussi en sorte qu'éventuellement, on va avoir certains leviers avec lesquels on va devoir composer pour être capable d'éviter des ruptures de service surtout. Là. C'est surtout ça l'objectif, en fait. Là. Mais c'est pas une situation qui est simple. Puis au fur et à mesure que l'absence progresse, mais c'est sûr que ça met de la pression. Donc là, on va voir au courant des prochains jours comment ça va se présenter.
Est-ce qu'on est toujours au Bas-Saint-Laurent en phase 3 de délestage?
À l'heure actuelle, oui. S'il n'est pas exclu qu'éventuellement on ait à aller plus loin si jamais la situation devenait un peu plus corsée. Mais pour l'instant, la cible, c'est encore le niveau 3, donc un 50% d'activité au bloc opératoire, une diminution des activités en clinique externe autour de peut-être 70% pour être capable de faire le reste du travail.
Et si jamais on bascule en phase 4, c'est quoi la grosse différence?
Je vous dirais, les pourcentages vont sans doute être à déterminer, mais la grosse différence va venir beaucoup dans le délestage de personnel. Donc, probablement que le bloc opératoire pourrait baisser à 30-40% pour toujours être en mesure de faire les urgences et les semi-urgences, mais ne faire que ça. Et ensuite, en clinique externe, probablement qu'on devrait diminuer encore les visites. Pas nécessairement pour qu'au niveau médical, l'usager puisse être vu ou pas, parce que maintenant, avec la télésanté et des visites en présence, on peut quand même faire une partie, mais c'est vraiment pour prendre les ressources soit au niveau des agents administratives ou encore au niveau du personnel soignant pour aller les réaffecter ailleurs. Donc ça pourrait avoir de l'impact. Donc ce que ça va faire concrètement, c'est d'aller peut-être un peu plus loin dans l'arrêt de certains services ou dans la réorganisation de certains services pour être capable de faire face à la vague actuelle.
La question qu'on se pose, parce que là, c'est des centaines de chirurgies qu'on est obligé de reporter, on est conscient de ça, mais ça va prendre combien de temps, combien d'années pour revenir à une situation normale? Parce que c'est des gens qui vont être sur une liste d'attente pendant plusieurs mois, voire même des années dans certains cas?
Oui. C'est sûr que ça, c'est un défi au quotidien. À chaque fois qu'il faut faire de la reprise d'activité, là, on compose depuis 2 ans avec cette réalité-là. Je vous dirais que l'été dernier, il y avait quand même une date cible sur la table pour dire que d'ici fin mars 2023, on essaierait de se ramener à l'état pré-pandémique. Là, on est en janvier 2022. On va voir combien de temps cette vague-ci va durer, puis ce sera quoi, quels seront les impacts à la fin. Mais ce qu'on voit, c'est que ça laisserait quand même plusieurs mois par la suite pour refaire du rattrapage chirurgical, puis être en mesure de justement améliorer les listes d'attente. Même cet automne, où on a quand même eu des enjeux de main-d'œuvre, vous vous en souviendrez, avec la vaccination et tout ça, tout ce que ça avait provoqué, on avait quand même été capable de commencer à réduire nos listes d'attente puis à diminuer le nombre d'usagers en attente de plus d'un an et de plus de 6 mois. Donc, à chaque fois que le Bas-Saint-Laurent a eu l'occasion de faire de la reprise d'activité, à chaque fois, on a vu quand même que les gens pouvaient s'organiser pour que ces listes d'attente-là s'améliorent. Donc, oui, il y aura des gens qui risquent d'attendre un peu plus longtemps, ou même beaucoup plus longtemps par rapport à ce qu'on avait comme offre de service là avant la pandémie. Mais la date cible de fin mars 2023, pour l'instant, m'apparaît encore atteignable. il faudra juste voir là, en fonction des prochains mois, puis si éventuellement il allait y avoir d'autres vagues ou pas, on ne le sait pas, là, mais en espérant que non. Mais c'est plus ces paramètres-là là, qui vont finir par avoir un impact sur notre capacité ou non de livrer pour mars 2023.
Monsieur Carvalho, avant de vous laisser aller, on apprenait via Radio-Canada ce matin qu'à Rivière-du-Loup, on a du mal à trouver des inhalothérapeutes. Vous avez d'ailleurs commenté. Quel est l'état de la situation? Est-ce que c'est un corps de métier où c'est difficile de faire du recrutement?
En fait, les inhalos sont des ressources précieuses pour un hôpital. Puis, comme n'importe quel autre type d'emploi ou professionnel, ben, on a des enjeux de recrutement. Par contre, souvent, on a des équipes plus petites, ce qui fait que quand on a des absences, puis les absences peuvent être pour n'importe quelle raison, parce que des fois, on réussit à recruter, mais la personne peut soit être malade ou carrément avoir un congé de maternité pour dire quelque chose. Puis c'est là, à ce moment-là, que parfois, on a de la misère à remplacer. Donc, les enjeux qui se vivent à Rivière-du-Loup, je les ai aussi dans d'autres installations hospitalières ailleurs au Bas-Saint-Laurent. Ouais. C'est sûr que là, on fait des actions pour aller recruter des inhalothérapeutes. Puis quand on n'y parvient pas complètement par les voies de recrutement à même nos postes, ben c'est ce que j'expliquais hier à l'autre média. C'est que parfois, on doit signer des contrats de main-d'œuvre externe qu'on appelle là, pour que les gens viennent donner du support. Donc ça fait partie des leviers qu'on a à notre disposition là, quand on a de la misère à couvrir les équipes. Mais oui, c'est serré là, au niveau des inhalothérapeutes actuellement.
Très intéressant, M. Carvalho. Merci beaucoup pour votre temps. On se dit à une prochaine.
Oui, d'accord. Bonne journée.